Good morning, everybody.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une agréable soirée genevoise. Le temps était magnifique hier soir. Donc c'était déjà ça. Nous avons ce matin quelques points supplémentaires à examiner avant le déjeuner. Nous allons reprendre au point 7B, questions découlant de la FAO et de l'OMS, examen des demandes d'avis scientifiques. Nous sommes ici saisis de deux documents, le document CXCSC 103315 et ainsi que le même document AD1. Ce point est inscrit à l'ordre du jour pour information. Néanmoins, si les délégations souhaitent formuler des commentaires, nous sommes bien entendu tout disposés à les entendre. Et s'il devait y avoir une discussion, eh bien nous en tirerions les conclusions. Mais je ne pense pas que ce devrait être le cas. Ce sont la FAO et l'OMS qui vont nous fournir des informations. Je commencerai donc par donner la parole à ces organisations pour qu'elles nous présentent le document. Je vous propose d'entendre la FAO. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Et bonjour à nos collègues interprètes. Bonjour, Madame. Au nom de la FAO et de l'OMS, j'aimerais vous présenter le document CXCAC 103315. Nous ne nous pencherons pas sur l'annexe 1 qui traite de formation. La question sera abordée de manière détaillée à la Commission. Ce document 103315, sur sa première page, contient un résumé des résultats des réunions conjointe tenue par la FAO et l'OMS en vue de fournir des avis scientifiques au Codex ainsi qu'une liste des publications et récents rapports techniques de ces réunions publiées sur la période à l'examen. Dans la deuxième partie du document sont décrites d'autres initiatives de la FAO et de l'OMS, page 7 du texte français, dans le domaine de la nutrition, paragraphes 13 à 17. Nous avons déjà eu la possibilité, dans le cadre de la réunion, de les évoquer. Toujours en deuxième partie, sont résumées les activités étroitement liées à la sécurité alimentaire. Il est question d'Infosane et d'autres groupes, tels que le FERG. Dans la troisième partie du document, qui pour nous est extrêmement importante pour le comité exécutif, vous trouverez deux tableaux qui résument l'état d'avancement des demandes d'avis scientifiques de la FAO et de l'OMS. Pour le tableau 1, vous avez les demandes du Codex et le tableau 2, les États membres. J'aurais souhaité, par votre truchement, Monsieur le Président, remercier au nom de la FAO et de l'OMS tous ceux qui ont appuyé le programme de travail contenu dans le document, et notamment les différents experts du monde entier, les institutions qui ont fourni des informations et des données, ainsi que les donateurs qui ont fourni un soutien financier, notamment au programme, que ce soit par le biais de l'initiative mondiale en faveur des avis scientifiques relatifs à l'alimentation, GIFSA, et à travers la FAO et l'OMS. Comme nous l'avons déjà indiqué, certaines contributions continuent de nous parvenir. Cette année, nous avons reçu des contributions des États-Unis pour appuyer les activités dans le domaine des résidus de pesticides et plus récemment de l'Australie pour soutenir les travaux du JECFA. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la représentante de la FAO pour ce bref exposé, cette présentation du document. Y a-t-il des réactions, des questions de la salle? Tel ne semble pas être le cas. Je pense que nous devrions donc... Pardon, la FAO souhaite ajouter quelque chose. En fait, j'intervenais au nom des deux organisations, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le président, y a-t-il des commentaires du côté des délégations ? Tel ne semble pas être le cas. Nous pouvons donc clore cet l'examen de ce point de l'ordre du jour. La FAO. Comme nous l'avons indiqué au début de notre intervention, la question relative à la formation ne sera pas évoquée ici, étant donné que la commission en traitera. Sur ce, nous en avons terminé de l'examen de ce point de deux jours. Une fois encore, merci à tous pour votre collaboration pour l'organisation du programme scientifique. Je puis vous assurer que la FAO et l'OMS continuera d'appuyer les activités du Codex par le biais de ses avis scientifiques, que ce soit au travers des comités, des réunions d'experts ou au travers d'autres initiatives telles que les groupes de travail électroniques qui permettent de favoriser un développement plus rapide des activités. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la FAO, dit le président. Un commentaire du vice-président Maniendo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais simplement demander un complément d'information à la FAO sur l'état d'avancement de l'excellente initiative de la FAO sur le GIFSA, l'initiative mondiale en faveur des avis scientifiques relatifs à l'alimentation. Où en sommes-nous du GIFSA? Est-ce que des problèmes ont été rencontrés? Quels sont les fonds qui ont été reçus? Je vous remercie. Merci au vice-président Maniendo. Je donne la parole à la représentante de la FAO. Merci, Monsieur le Président. Comme le sait le comité exécutif, il s'agit là d'une initiative conjointe de la FAO et de l'OMS. Nous avons fourni un certain nombre d'informations dans le document CXCAC 10-33-9 qui traite du budget. J'aurais souhaité préciser que, en ce qui concerne l'appui à ces activités relatives aux avis scientifiques, deux mécanismes existent, le GIFSA, cette initiative mondiale en faveur des avis scientifiques relatifs à l'alimentation. En ce qui concerne la FAO, au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu environ des contributions de différents donateurs. Pardon. Je réfléchis. 500 000 dollars depuis 2008 et jusqu'à aujourd'hui par le biais du GIFSA. Dans le même temps, nos collègues de l'OMS ont reçu directement des contributions par le biais du compte général de l'OMS tel qu'indiqué au paragraphe 47 pour une valeur approximative . J'essaie de retrouver ces informations dans le document relatif au budget. Une seconde, je vous prie.
Et la OMS.
Dans ce document, l'OMS indique une contribution générale, mais on ne sait pas. En fait, on a un chiffre général qui ne précise pas ce qui est alloué aux avis scientifiques. Toutefois, en ce qui concerne le GIFSA, une remarque importante. La valeur du projet qui a été présenté aux pays donateurs Enfin, nous espérons recevoir une contribution beaucoup plus importante que ces deux dernières années. En ce qui concerne la FAO, nous avons dû lancer un appel au pays. Il y a environ 3 semaines, la FAO a envoyé une communication à différents donateurs, les informant de la stratégie adoptée par l'OMS pour renforcer les activités relatives aux avis scientifiques, activités sur 4 ans. Suite à cette communication, nous avons reçu une réponse immédiate du gouvernement de l'Australie qui a versé une seconde contribution au fonds. J'aurais également souhaité ajouter qu'une des contributions importantes du fonds GIFSA tient au fait que ces ressources étant organisées pour faciliter l'organisation d'événements, dans le cadre de la FAO par exemple, nous avons réussi à affecter une partie des fonds à l'appui des activités de collecte et génération de production de données dans les régions. C'est important parce que, par exemple, en ce qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes, nous avons pu, sur la base de fonds initiaux, de lancer la création d'une base de données sur Vibrio parletico, sur les produits de la pêche. Nous avons pu ainsi recueillir des informations pour 5 pays de la région. Ce fonds permet donc non seulement d'accroître le nombre de réunions et la pertinence des réunions, mais il permet aussi, au titre de ces fonds ordinaires, soit financer des activités de renforcement des avis scientifiques dans les pays en développement. Je vous remercie. Et nous en appelons donc au pays pour qu'il continue de contribuer au financement de ces activités par le biais de la FAO et de l'OMS. Tant pour accroître la participation des pays en développement que pour la collecte des données. Je vous remercie.
Thank you, FAO.
Le président, je remercie la représentante de la FAO. J'espère que l'on a répondu à la question du vice-président Maniendo. Avant de clore l'examen de ce point de l'ordre du jour, je suis certain que je m'exprime au nom de l'ensemble du comité en remerciant l'OMS et la FAO pour ce document, pour le travail réalisé à l'appui du Codex Alimentarius. Nous sommes ravis de constater que ces interventions ont été bien mieux organisées ces dernières années de manière systématique, parce que sans avis scientifique, eh bien, nous ne sommes rien dans bien des cas. Et nous ne pouvons qu'encourager l'ensemble des États membres à appuyer le travail scientifique de l'organisation, tant par le biais d'un soutien financier, lorsque cela est possible, qu'en fournissant des experts scientifiques dont nous avons énormément besoin. Nous espérons pouvoir bénéficier d'un appui de la part de tous à l'avenir. Et je ne pense qu'il n'y a rien à ajouter sous ce point de l'ordre du jour. Nous reviendrons à ce point à la commission et pourrons en discuter si nécessaire à ce moment-là. Enfin, encore merci. Merci pour votre patience. Et je vais à présent redonner la parole à la présidente Karen Ulbach. Merci à tous pour votre patience à mon égard.
Good morning.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de permettre à la réunion d'avancer d'un bon pas. Et merci aussi aux trois vice-présidents sans lesquels ces progrès n'auraient pas été possibles. Je vous propose de les applaudir tous.
Thank you.
Je vous remercie. Le point suivant de l'ordre du jour, qui avance à grands pas, est le point 8, projet d'ordre du jour provisoire de la 34e session de la commission du Codex Alimentarius. Je vais donner la parole au secrétariat pour que l'on nous présente ce point. Merci, Madame le Président. Bonjour à tous. Il s'agit d'un point ordinaire inscrit à l'ordre du jour du comité qui est censé se pencher sur l'ordre du jour provisoire des sessions de la commission, en cas d'espèce, la 34e session. Telle qu'indiquée lors de la précédente réunion du comité exécutif, nous avions indiqué que cette session aurait lieu à Genève et non pas au siège à Rome, puisqu'en même temps aura lieu la conférence de la FAO. Donc nous revenons à la rotation entre Genève et Rome. Et en 2012, nous reviendrons à Rome, puisqu'à l'avenir, la conférence de la FAO aura toujours lieu en juillet. Vous avez le projet d'ordre du jour sous les yeux. Vous aurez par ailleurs le rapport des comités de coordination. Des coordonnateurs seront désignés et nous procéderons aussi à l'élection des membres du bureau du comité exécutif. Il s'agit donc d'un ordre du jour type qui est soumis à l'examen du comité. Je vous remercie. Merci au secrétariat. Y a-t-il des réactions sur ce projet d'ordre du jour provisoire?
I see none.
Tel n'est pas le cas. Cet ordre du jour provisoire est donc adopté. La question sotto voce que pose le vice-président concerne la longueur des réunions. Nous allons repasser l'année prochaine la durée habituelle de 5 jours, c'est cela? En fait, 6 jours du 4 au 9, généralement nous avions 5 jours de réunion à Genève et 6 jours à Rome. Cette année, nous avons demandé une réunion de 6 jours, mais cela n'a pas été possible parce que la salle de réunion était occupée le samedi. Donc l'année prochaine, lundi à samedi, 6 jours. La présidente, je vous remercie. L'examen de ce point de l'ordre du jour est donc achevé. Nous passons au point 9 de l'ordre du jour. Autres questions et travaux futurs. Nous sommes saisis de 3 points sous ce point de l'ordre du jour. D'une part, la proposition émanant de la retraite des présidents organisée au mois d'avril, demandant au comité d'exécutif d'envisager de recommander à la commission que cette dernière demande au comité des principes généraux d'élaborer de nouvelles options possibles pour la tenue des réunions de groupes de travail physique. Alors, bien que personnellement je ne puisse m'exprimer et écrire qu'en anglais, j'ai préparé quelques idées de propositions que je vous décrirai de manière un peu plus détaillée. Nous en discuterons, entendrons le cas échéant vos observations et vos commentaires pour voir ce que nous pourrons faire et, je l'espère, transmettre une proposition à la Commission. Nous sommes également saisis d'une proposition du membre pour l'Amérique du Nord, me semble-t-il, qui concerne les possibilités de recours à la traduction automatisée. Nous avons un document CRD4. Pardonnez-moi, je reviens un instant en arrière, dès la précédente Étant donné que j'ai préparé mon document d'une page très tardivement, le document pourra simplement être inclus au rapport du comité. C'est un document très bref d'une page. Nous avons donc un document portant un code CRD4 qui contient des idées relatives au recours à la traduction automatisée pour le codex. Je vous propose d'examiner ce point en deuxième position. Et troisièmement, nous évoquerons la proposition relative à un point d'information présenté par la Nouvelle-Zélande et l'Europe. C'est bien cela. En fait, cela concerne le coordonnateur pour l'Europe, mais il s'agit simplement d'un point soumis pour notification et non pas pour information, donc, et non pas pour discussion. Merci beaucoup. Nous allons donc commencer par les idées qui ont été soulevées lors de la retraite des présidents. Permettez-moi très brièvement de récapituler la discussion. Nous avons, dans le cadre de cette retraite, mis l'accent sur la manière d'améliorer les travaux du Codex par le biais de ses comités. Cette réunion était ouverte à tous les présidents des comités, présidents des comités de coordination et des groupes spéciaux. La réponse a été très importante. On a entendu énormément de réactions. Nous avons consacré l'essentiel de notre temps à la compréhension, à l'étude des compétences nécessaires dans la négociation pour les délégations qui travaillent les unes avec les autres, pour leur permettre de parvenir à un accord dans le cadre des processus d'établissement de normes. Nous avons, en ce qui concerne les présidents, discuté des compétences en matière de médiation, à savoir aider les délégations à négocier les unes avec les autres pour parvenir à un accord. Au cours de cette discussion, nous avons constaté plusieurs choses importantes, notamment une chose que je vous soumets aujourd'hui pour approbation, à savoir que les principes qui s'appliquent au groupe de travail physique tel qu'énoncé dans le manuel de procédure sont tout à fait compatibles par rapport aux principes de cohérence, transparence et inclusivité du codex, mais dans la pratique, ces principes ne répondent peut-être pas aux besoins du codex comme il le devrait, pour plusieurs raisons. Bien souvent, les groupes de travail ont pris des proportions énormes, 50-60 personnes dans certains cas. Comme vous le savez, il est extrêmement difficile de rédiger des textes dans un groupe de rédaction de 50 ou 60 personnes. Donc, nous nous sommes demandé comment réduire le nombre de participants à ces groupes tout en améliorant la participation de tous les pays membres.
Un autre principe clé est l'ouverture et le caractère inclusif ainsi que la pleine participation des pays en voie de développement. En tant que président, nous reconnaissons que trop souvent, même si ces groupes de travail sont très nombreux, il est nécessaire de trouver des moyens d'améliorer la participation des pays qui sont impliqués. Et il nous a semblé qu'il pourrait y avoir des possibilités à dégager dans cette description. Nous reconnaissons également que le principe crucial d'ouverture doit être amélioré. Donc, je vous donnerai en exemple une idée qui vous a déjà été présentée, consistant à adopter une approche qui a également été adoptée par l'ISO, qui organise ses groupes de travail en demandant que soit limité le nombre de membres du groupe de travail physique. Et nous proposerions d'avoir deux ou trois experts venant de chaque région du Codex, de façon à garantir un seuil maximal du nombre de membres, tout en assurant la participation de toutes les régions dans le processus. Cela aurait un effet, puisque des arrangements pratiques avec le fonds fiduciaire devraient être mis en place, puisque ce fonds fiduciaire devrait prendre en charge le déplacement de ces personnes qui se rendent au groupe de travail. Mais cela nous permettrait d'honorer nos deux objectifs, c'est-à-dire limiter le nombre de personnes participant au groupe de travail, tout en maintenant la participation du plus grand nombre de pays possible. Nous voulons donc assurer l'ouverture et la transparence. Et les règles et les responsabilités qui s'appliquent aux participants du groupe de travail pourraient être élaborées, énoncées. Et les participants pourraient peut-être faire circuler cette rédaction à tous les membres de la région. Plusieurs moyens pourraient être utilisés à cette fin. Nous n'avons pas essayé d'élaborer les détails, mais nous voulions simplement vous présenter cette idée. Une autre possibilité qui a été évoquée lorsque j'ai soulevé cette question le tout premier jour, si l'on essaie d'élaborer une série d'options par l'intermédiaire du comité sur les principes généraux, nous pourrions utiliser ces règles au lieu des règles actuelles. Ces dernières pourraient d'autre part être maintenues. Un autre membre du comité a évoqué l'utilisation des services d'un animateur. Si les principes généraux envisagent une telle option au sein des groupes de travail. J'espère avoir été clair et j'ouvre la parole aux discussions, aux questions. Je peux également vous dire que plusieurs membres dans cette salle sont des participants à cette retraite des présidents et pourront peut-être nous aider à expliquer les raisonnements des présidents. Donc je vous laisse la parole pour des commentaires ou des questions pour discuter de cette idée. Merci.
Representative of FAO.
Représentante de la FAO, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je m'excuse de poser cette question, mais malheureusement, je n'ai pas participé à la retraite et ma collègue qui était à la retraite n'est pas présente ici aujourd'hui. Ma question est la suivante. Qui est responsable de décider qui seront les experts choisis dans chaque région et quels critères seront appliqués pour faire cette sélection? Je crois que cela a fait l'objet d'un débat, mais j'aimerais obtenir davantage d'informations pour ceux d'entre nous qui n'avons pas participé à la retraite.
Thank you.
Merci, représentant de la FAO. Nous ne sommes pas rentrés dans de tels détails lors de la retraite. C'est le type de détail qui devrait être élaboré au sein d'un groupe de travail. Plusieurs approches sont possibles et les idées doivent faire l'objet de discussions. Elles doivent être comparées et donner lieu à une décision ultime. Évidemment, nous avons besoin d'une réflexion approfondie sur la question, car nous soulevons de nouvelles idées, mais nous pensons qu'il existe des solutions aux questions qui ont été identifiées. C'est en tout cas une très bonne question qui devra faire l'objet d'une discussion. Merci. Membre de l'Europe, s'il vous plaît.
Thank you, Madam Chair.
Merci, Madame le Président. Je suis tout à fait en faveur de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité du codex. J'ai simplement une question. Le problème à identifier, ou l'un des problèmes, était la taille trop importante des groupes de travail du codex. C'est un problème, en effet, car du point de vue de la transparence, beaucoup de pays voudront participer au groupe de travail. Mais combien de ces pays contribuent réellement à ces groupes de travail? Disons, par exemple, que 50 d'entre eux doivent participer, cela signifierait que 50 doivent émettre une idée. Donc, nous avons des groupes de travail très larges, très étendus, mais combien de, des personnes qui participent contribuent réellement?
Thank you, member for Europe.
Merci aux membres pour l'Europe. C'est le cas dans, la, dans pratiquement tous les grands groupes qui ont pour but de rédiger un document. Lorsque l'on a 50 membres, très peu de ces 50 membres réalisent une contribution effective au travail réalisé. Une autre préoccupation que nous avions était que de ces 50 membres, très peu en réalité proviennent de pays en voie de développement. Donc l'un des objectifs serait de nous assurer que l'on a un groupe plus restreint qui permette une contribution de tous les membres de ce groupe. Mais il faut que ces membres soient sélectionnés en fonction de leur expertise et de leur capacité à contribuer de façon efficace. Donc, dès le départ, dès le début de l'élaboration d'un document, nous ferions en sorte d'avoir les contributions substantielles provenant de toutes les parties, toutes les régions du monde. Voilà donc notre objectif. Oui, monsieur le membre pour l'Europe, vous avez une autre question? Oui, donc en fait, les propositions retiendraient toujours un caractère transparent, plutôt que d'inclure tous ces pays qui, en général, ne contribuent pas au groupe de travail. Le but étant de conserver cette transparence, donc de façon à ce que ceux qui veulent être tenus au courant des évolutions le seront. Je voulais simplement clarifier cela. Merci beaucoup.
Thank you, member for Europe.
Merci aux membres pour l'Europe. Nous ne voulons pas réduire le niveau de transparence. Au contraire, nous voulons, par le biais de ce processus, au moins le maintenir, sinon l'améliorer. Mais nous ne ferons rien qui réduirait ce niveau de transparence. Merci pour ces très bonnes questions. Le coordinateur de l'Europe avait demandé la parole. Ensuite, le coordinateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et donc, nous allons procéder par ordre. Tout d'abord, le coordinateur pour l'Europe. Merci, Madame le Président. J'aimerais vous faire part de mon expérience par rapport au travail de l'ISO, auquel je participe chaque année. Le sous-comité 9, plus précisément, relatif aux ferments animaux et aux éléments microbiologiques dans les aliments. Nous avons donc établi des groupes de travail dans le cadre de notre travail et je voudrais vous dire qu'il est nécessaire d'avoir au moins 5 pays pour établir des groupes de travail. Et en général, le dirigeant d'un groupe de travail est sélectionné, est élu durant la plénière. Pour ce qui est des experts, en général, ils sont nommés par des organes de normalisation nationaux. Cela signifie qu'ils sont choisis un peu après. Le secrétariat de l'ISO s'adresse aux organes de normalisation nationaux pour que ces derniers désignent des experts au niveau national. Et je crois qu'ainsi, ce sont les meilleurs experts qui sont choisis. Et dans la pratique, la plus grande partie du travail de normalisation revient aux pays dirigeants. Mais Bien sûr, on recommande et on encourage qu'autant de pays que possible s'impliquent dans ces processus d'élaboration. Merci.
Thank you very much.
Merci au coordinateur pour l'Europe. Il est clair que ce type d'expérience que vous et d'autres membres ont vécu au sein de ce comité exécutif avec l'ISO peuvent être une source d'enseignement par rapport à l'élaboration de nouveaux processus. Évidemment, les nôtres seront différents, mais nous pourrons nous inspirer de cet historique. Donc, merci de nous avoir décrit les facteurs principaux qui permettent le succès des processus de l'ISO. Nous donnons ensuite la parole au coordinateur pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
Gracias, señor.
Merci, Madame le Président. Je souhaitais juste clarifier ou voire même enrichir ce qu'on a dit par rapport à la réunion d'avril. Cette idée émergé à l'heure où l'on cherchait à identifier les bonnes pratiques au sein d'autres organisations. Et nous sommes rendus compte que une grande partie des retards dans les groupes de travail était due à la grande quantité, au grand nombre de membres qui participaient ou qui étaient présents. Et malgré leur présence, une fois revenus à la plénière, continuaient de faire des commentaires. Donc, le but des groupes de travaux dans les autres organisations et justement de soumettre une solution à la plénière. Donc nous avons suggéré de changer les règles des groupes de travail parce que il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes règles pour les comités, les groupes de travail, les groupes de travail électroniques parce qu'on n'y gagne rien. Et en changeant les règles, nous chercherions à maintenir la transparence et l'inclusion de tous. Tout en permettant un progrès plus rapide des travaux. Un autre point qui n'est peut-être pas reflété dans le résumé concerne les groupes de travail électroniques. Nous avons parlé de l'exemple du CCMAS, dirigé par l'Argentine, dans lequel une plateforme de groupes de travail électroniques a été établie. Même si le groupe était plus réduit, toute la transparence et la traçabilité des discussions a été assurée en ligne et elle est stockée en ligne. Une réunion du comité a été organisée et un document en live a été établi. Donc, je pense que nous pourrions avoir une présentation de cette page et ce qui nous permettrait d'approcher de façon différente cette méthodologie des groupes de travail électroniques.
Madame.
Merci, Madame, pour vos observations. Oui, nous avons en effet parlé des groupes de travail électroniques et nous avons parlé plus spécifiquement de l'exemple du groupe de travail du CCMAS dirigé par l'Argentine que les participants ont salué. Alors que nous parlions de ce thème lors de la retraite, nous n'avons pas jugé nécessaire de demander au comité exécutif et à la commission d'approuver la disponibilité de ce software, de ce logiciel, mais je crois que le secrétariat pourrait le rendre disponible sur le site web. Néanmoins, tout dépend de la volonté de ce comité exécutif. Si vous, les membres, estimez qu'un travail supplémentaire ciblé sur les nouvelles procédures s'appliquant aux groupes de travaux électroniques sont nécessaires, eh bien, on le fera. Mais vous pouvez également tout simplement essayer le nouveau logiciel, voir comment il fonctionne, s'il fonctionne bien. Et comme on l'a dit au cours de la retraite, dans 2 ans, nous pouvons nous pencher sur la question et voir si des réglages ou des ajustements de nature procédurale sont nécessaires pour améliorer les procédures de travail des groupes de travaux en ligne. Merci. Je donne la parole aux membres pour le Pacifique Sud-Ouest.
Thank you, Madame.
Merci, Madame le Président. J'ai eu le privilège de participer à la retraite en tant que personnel de ressources et j'ai apporté la perspective d'un pays hôte et d'un point de contact du Codex. pour répondre à la question du membre pour l'Europe, la plupart ou tous les groupes de travail physique opèrent de façon différente et les taux de participation sont différents. Ils varient en fonction du président et des documents étudiés. D'après ma propre expérience, le président de CCFX choisit lui-même d'impliquer toutes les personnes présentes dans la salle, s'assurant qu'on leur offre l'occasion d'émettre des commentaires généraux ou autres. Je crois qu'il est important de remarquer, au sujet de ces discussions qui se sont tenues à Paris, que le but n'est pas de remplacer les mécanismes existants. Le but est de donner aux présidents et aux membres des comités des alternatives. Nous avons parlé du travail réalisé par l'OIE, leur rédaction de certains documents techniques, ainsi que les méthodes de rédaction de l'ICPV. Nous avons également discuté de la possibilité de mieux coordonner les travaux des représentants régionaux et nous sommes dit que les coordinateurs régionaux pourraient se charger de cela. Et personnellement, je pense que le meilleur moyen de le faire serait d'améliorer la coopération entre les régions pour impliquer aussi bien les petites régions que les plus grandes régions et assurer davantage d'occasions de participation aux pays qui participent le moins. Nous avons également discuté de la possibilité d'inclure certains mécanismes pour que le fonds fiduciaire assure financièrement la participation des pays en voie de développement. Une autre alternative que nous n'avons pas traitée pour ce qui est des groupes plus restreints est l'option de la visioconférence. Cela pourrait permettre de réduire les coûts, mais la transparence serait protégée, assurée. Si nous recommandons au comité sur les principes généraux de se pencher sur la question, il faudrait s'assurer que les mécanismes en place au sein de l'OIE et de l'IPCV, ainsi que ceux de l'ISO, sont pris comme exemple. Mais je suis tout à fait en faveur de cette idée d'après laquelle nous devrions demander au comité des principes sur les principes généraux de se pencher sur le problème. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup. C'est une très bonne suggestion. Le membre pour l'Amérique du Nord, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais rajouter que nous sommes en faveur de ce que le Comité des principes généraux réfléchisse sur ces principes et faire en sorte que tout le monde puisse réagir à l'évolution de la question. Pour ce qui est de la transparence, peut-être que tout le monde comprend sauf moi, mais avez-vous envisagé la possibilité d'avoir des observateurs, c'est-à-dire un groupe de personnes qui travaillent sur les documents et d'autres personnes qui pourraient observer le travail? Est-ce que cette idée a fait l'objet d'une discussion ou non?
Thank you.
Merci, membre pour l'Amérique du Nord. C'est une très bonne question. Nous n'avons pas évoqué cette possibilité. C'est une question qui pourrait être soumise au comité des principes généraux. Est-ce que la secrétaire souhaite commenter sur ce point, Madame la secrétaire?
Thank you, Madame Chair.
Merci, Madame la Présidente. Oui, j'avais en fait la même question, mais peut-être pas dans le même sens. Je me demandais s'il s'agirait seulement des gouvernements et si des observateurs, c'est-à-dire des organisations observatrices, auraient le droit d'observer ou de se rendre à ces groupes de travail. Est-ce que ces observateurs seraient des organisations internationales ou des entités intergouvernementales? Merci, Madame la Secrétaire. C'est une bonne question qui devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie par le groupe de travail sur les principes généraux. Ces questions ont déjà été soulevées et maintenant nous recherchons de nouvelles options qui, naturellement, se font jour de nouveau. Merci d'avoir fait remarquer cela.
I know the representative of FAO.
Je sais que la représentante de la FAO souhaite prendre la parole, mais j'aimerais tout d'abord écouter les commentaires des membres qui avaient demandé la parole auparavant. Et je demanderai à entendre les commentaires du membre pour l'Asie.
Thank you, Chair.
Merci, Madame la Présidente. Mon commentaire se base sur mon expérience en tant que président du groupe spécial sur les technologies alimentaires, ainsi que l'expérience du vice-président du groupe spécial sur les critères microbiologiques. Beaucoup de participants se sont rendus à ces groupes spéciaux. Et à mon sens, cela n'a pas posé de problème au sein du groupe de travail. Je crois que cette question est complexe et délicate. Pour se préparer à la plénière, pour ce qui est des groupes de travail physiques, il est nécessaire d'anticiper l'évolution de la situation en plénière. Je me suis rendu à toutes les réunions et c'est un moyen approprié pour que les présidents aient une idée de ce qui va se passer en plénière et puissent ainsi diriger le débat. Donc une participation large est en fait une contribution positive à l'efficacité du débat en plénière. Voilà pour un point. D'autre part, pour ce qui est des critères microbiologiques et des groupes de travail physique, les contributions apportées par les organisations non gouvernementales sont substantielles et très utiles. De plus, il s'agit de thèmes très techniques et les délégués doivent avoir des compétences en statistiques, en mathématiques et autres. Dans ce cas, nous avions 15 participants, peut-être plus, je ne me souviens pas exactement. Mais en observant la représentation régionale, on pourra voir que l'Amérique du Nord, l'Europe et d'autres pays sont légèrement surreprésentés. Mais les opinions représentées dans le projet de document final ne sont pas si biaisées. Et par rapport à ce qu'a dit le coordinateur pour l'Amérique latine, concernant les discussions relatives aux groupes de travail électroniques, ces dernières sont très importantes. Ce débat est très utile pour harmoniser et unir les voix de divers pays, diverses organisations et organiser toutes ces opinions qui nous viennent. Nous avons pu rédiger une présentation structurée de ces opinions que nous avons ensuite soumises au groupe de travail. Donc il faudrait que le président du groupe puisse préparer un document à soumettre, à présenter au groupe de travail qui contienne toutes les opinions à représenter. Voilà pourquoi je pense que cette question est très procédurale. Et si l'on en débat ainsi, je crois qu'il faut se plonger dans les détails, vraiment. Tout dépend de la nature du groupe de travail physique. Il faut, comme l'Amérique latine l'a dit, utiliser davantage les moyens électroniques pour préparer les groupes de travail physique. Merci.
Thank you very much.
Merci aux membres pour l'Asie. De très bons commentaires. Comme beaucoup de membres de ce comité exécutif l'ont fait remarquer, et je vais le répéter, l'idée ici n'est pas de remplacer les règles existantes pour les groupes de travail physique, mais plutôt d'apporter une alternative aux présidents de comité s'ils choisissent de changer de méthode de travail. Cela s'applique également aux groupes de travail électroniques. Cette option reste valable et ne serait pas du tout changée. Les questions que vous avez soulevées feraient partie de celles qui concernent les principes généraux et l'élaboration d'une procédure alternative, car vous avez raison, on parle bien ici de procédure. Et il y aurait donc une option supplémentaire offerte au président. On a pu le voir, les expériences sont diverses d'un comité à l'autre et d'un président à l'autre. Donc, fournir au président une nouvelle option ne fait qu'augmenter la flexibilité d'action des comités et des présidents. Nous n'essayons certainement pas de limiter les possibilités, mais au contraire d'augmenter la flexibilité et les options permettant de progresser dans nos travaux. Vos réflexions et vos contributions, je l'espère, feraient ainsi partie d'une discussion vitale au sein du groupe de travail sur les principes généraux. L'intervention suivante était celle du conseiller pour l'Afrique, ensuite celle du coordinateur pour le Proche-Orient.
Chair.
Merci Madame la Présidente. J'ai une question. Par rapport à cette proposition d'après laquelle des experts seraient désignés pour chaque région. Alors, qui ferait cette sélection? Que se passerait-il si certains pays envoient des présentations par rapport à des questions qui, traditionnellement, ne les intéressent pas? Cela signifie-t-il que le coordinateur prendrait en charge cette nomination? Est-ce qu'il serait impliqué dans ce processus? Quel serait le mécanisme de sélection? Et pour ce qui est de la transparence et l'encouragement de la participation, peut-être qu'un impact négatif se ferait sentir. Pourriez-vous clarifier ce point? Merci, Madame la Présidente.
Thank you very much.
Je remercie le conseiller pour l'Afrique. Nous n'avons pas de réponse en ce qui concerne les procédures qui serait suivi, les meilleures solutions. Mais nous savons que dans le cadre de la discussion au CCGP, d'une manière plus générale à la Commission, il nous faudra nous doter de mécanismes qui satisferont tous les membres, qui permettront de préserver la transparence et l'inclusivité, voire de les améliorer. Pour cela, je pense que nous examinerions la situation actuelle et ferions en sorte que, quelles que soient les décisions prises, elles représentent une amélioration par rapport à la situation actuelle. L'expérience, en effet, m'a montré, de même que pour un certain nombre de présidents, que bien souvent ce désir d'inclusivité existe, mais il n'est pas toujours respecté dans la pratique. Donc il faudrait vraiment améliorer les choses, faire en sorte que tout le monde puisse participer. Mais ce n'est pas à nous de le faire ici. Nous pouvons simplement dire, si vous le souhaitez, voici les questions qui méritent réflexion et qui méritent, dans la mesure du possible, que l'on essaye d'améliorer la chose. Merci au conseiller pour l'Afrique pour, une fois encore, une excellente question. Qui sera examiné par le groupe de travail sur les principes généraux? Coordonnateur Proche-Orient, vous avez la parole.
Je vous remercie, Madame la Présidente. En premier lieu, je voudrais partager l'avis selon lequel il est bon que la question soit posée au comité exécutif afin d'améliorer les méthodes de travail des groupes de travail et de la commission du Codex de manière générale, notamment pour l'élaboration des normes. Effectivement, la réduction des nombres est une question importante, mais je pense qu'il y a trois points à prendre en considération au cas où cette proposition est soumise à la Commission des principes généraux, à savoir, il serait peut-être possible de constituer un groupe de travail limité, à composition limitée, de 4 à 5 membres, mais ces membres ne devraient pas représenter leur pays, mais ils devraient être choisis selon leurs compétences dans les domaines de travail du groupe de travail. Cela permettrait de garantir la transparence nécessaire. Et donc, cela également permettrait de ne pas prendre en considération la vie et les points de vue des pays auxquels ces membres appartiennent. Donc, ces membres devraient être choisis en leur qualité personnelle et professionnelle. Le deuxième élément est le suivant. Les travaux de ce groupe de travail, après l'élaboration du document principal qui déterminera ses fonctions. Donc, ce groupe de travail pourra utiliser les procédés électroniques ou les autres procédés qui ont été présentés par l'Argentine et par le site web. Un troisième point sur lequel je voudrais insister et qui a été discuté dans la retraite est la nécessité de donner un rôle plus important aux régions et aux coordonnateurs en vue de leur permettre de transmettre les positions des régions dans les groupes de travail. Ici me vient à l'esprit la méthode de travail que l'on pourrait adopter afin de parvenir à une amélioration du rôle du coordonnateur, notamment dans les pays en développement. Hier, nous avons débattu du rôle du fonds d'affectation spéciale et nous avons considéré que ce fonds pourrait avoir un rôle bien précis, à savoir l'amélioration des compétences des pays en développement. Et ce renforcement des compétences des pays en développement pourrait se centrer sur certaines questions bien précises qui seront déterminés dans les groupes de travail. Et cela pourrait former la base pour la formation des pays en développement afin de leur permettre d'élaborer leurs positions et de transmettre ces positions aux groupes de travail. Et cela implique un travail sur le plan régional. Et ma proposition est que l'on tienne des réunions d'un ou deux jours pour traiter de certaines questions qui seraient soumises à la commission du Codex ou au groupe de travail. Donc, cela devrait permettre aux régions d'adopter une position unifiée qui serait relayée plus haut. Et cela permettrait également de renforcer le rôle et la participation des membres de la commission du Codex et leur permettre donc de présenter ou de participer à l'élaboration des propositions. Donc, cette proposition permettrait de renforcer le rôle des régions et de renforcer la formation dans le domaine du renforcement des capacités. Je vous remercie, Madame.
Thank you very much. Merci au coordonnateur pour le Proche-Orient. En effet, les objectifs évoqués par les présidents à la retraite sont cohérents par rapport à certains des objectifs évoqués hier en ce qui concerne le fonds et la nécessité de l'utiliser pour renforcer les capacités dans le contexte du Codex. Le coordonnateur formuler des remarques qui, là aussi, devront être examinées par un groupe de travail sur les principes généraux. Si le comité est d'accord pour transmettre cette idée à la commission et si la commission devait recommander à ce que l'on examine la question sous l'angle des principes généraux. Y a-t-il d'autres demandes de parole? La représentante de la FAO, non? Non, madame, en fait, le membre pour l'Asie a déjà dit ce que je souhaitais dire. Merci. Le membre pour l'Europe vient de lever sa pancarte. Vous avez la parole. Merci, madame le président. Je voulais avoir une idée du calendrier que nous allons suivre. Alors, je ne sais pas quand le CCGP tiendra sa prochaine réunion, peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. Donc, je pense que ce serait une bonne idée si le comité exécutif en est d'accord de transférer la question au CCGP, mais cela risque de prendre du temps pour que la question soit examinée, ce qui serait regrettable à mon sens. Mais si c'est ainsi que nous devons procéder, soit. Simplement, je voulais avoir une idée du calendrier que nous pourrions suivre. Merci. La présidente, je remercie le membre pour l'Europe. Je crois que la question reste ouverte en ce qui concerne la date de la prochaine réunion du CCGP. Dans une certaine mesure, la réponse à cette question dépendra des questions qui seront renvoyées par la Commission au CCGP. Et je ne sais pas, personne ne sait ce que la Commission demandera au CCGP. Le secrétariat souhaite-t-il ajouter quelque chose? Madame, vous avez la parole. Merci, Madame le Président. Ce qui concerne les réunions du CCGP, comme vous l'avez dit et comme l'a dit notre collègue, tout dépendra de la décision de la Commission. Tout dépendra de l'avancement des travaux du CCGP. Le comité lui-même avait estimé qu'il n'avait pas suffisamment de points à son ordre du jour pour se réunir en 2011 et qu'il se réunirait en 2012 en partant du principe que tous les points relatifs à l'amendement manuel sera examiné. Donc, cette proposition peut être faite, peut être transmise à la Commission et nous verrons au point de vue de la procédure comment les choses évolueront. J'attire simplement votre attention sur l'emploi du terme expert. Nous sommes une organisation intergouvernementale. Dans les comités, vous avez des délégations qui représentent des gouvernements. Si l'on propose de parler d'expert en terminologie FAO, OMS, cela sous-entend des experts dans le cadre de consultations d'experts ou de comités d'experts. C'est un peu différent. Je le souligne parce que normalement, ce sont des délégations qui constituent les comités. Si, par exemple, le représentant d'une région est un coordonnateur régional, ça implique aussi un gouvernement, une délégation. Donc, c'est un peu différent des experts. Je voulais simplement le rappeler. Par ailleurs, un point de vue plus stratégique et général, il est extrêmement important que le comité exécutif puis que la commission se demandent si l'on est d'accord pour passer de discussion entre pays à une discussion entre régions. La question mérite d'être posée. Voilà, en ce qui concerne la procédure et les experts. Et c'est le comité des principes généraux qui se penchera sur la marche à suivre, les modalités sur la base de ce que dira la commission. Pour la procédure, à la fin du document, il est question du groupe de travail du CCGP. Nous ne savons pas à ce stade comment le CCGP souhaitera procéder. D'une manière générale, lorsque des propositions sont faites sur la procédure, elles sont généralement préparées par le secrétariat avec le concours du conseiller juridique parce que nous avons besoin de tenir compte des considérations juridiques. Voilà pour la procédure, mais je le répète, tout dépendra de la décision du CCGP. Et à ce moment-là, peut-être que ce comité des principes généraux aura des idées supplémentaires quant à la manière de faciliter la discussion ou d'améliorer les travaux. Je vous remercie. Merci, madame. Nous ne savons pas quand le CCGP se réunira. Si le comité estime qu'il est important de poursuivre ces travaux, pourrions-nous envisager de nous ménager la possibilité de suggérer à la commission que si le CCGP ne se réunit pas avant 2012, que l'on confie cette tâche au bureau, que l'on lui demande de préparer différentes options qui seront soumises ensuite au comité exécutif. Cette possibilité vous semble-t-elle être acceptable? En d'autres termes, nous n'aurions pas à attendre jusqu'en 2012. Ce pourrait être une solution. C'est une question que je vous soumets, ainsi qu'au secrétariat. En ce qui concerne la terminologie, dans ce document d'une page, l'idée était de vous soumettre des idées, pas de soulever des questions de fond quant aux experts, à l'emploi de la terminologie, aux questions de procédure, et encore moins de créer des précédents. Donc ces questions devront de toute évidence être examinées dans le détail. En ce qui concerne le groupe de travail principes généraux, il est vrai que, en règle générale, c'est le secrétariat qui prépare les documents, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le CCGP a des groupes de travail qui préparent des documents. C'est aussi une possibilité qui pourra être envisagée par le CCGP. Le conseiller Pacifique Sud-Ouest a la parole. Merci, Madame le Président. Ayant pu écouter l'ensemble des interventions, je me dis, et suite à la question posée par le représentant de coordinateur pour l'Europe, que, comme le secrétariat l'a indiqué, tout dépendra de la masse critique de travaux dont sera saisi le CCGP. Vous avez proposé une solution au cas où le CCGP ne se réunirait pas l'année prochaine, ce qui m'a amené à réfléchir à ce dont nous avons besoin. Certes, il est utile de disposer de votre document résumant les questions à examiner, d'éventuelles solutions au problème de la taille des groupes de travail. Pour faire avancer la discussion, je pense qu'il est souhaitable d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et alors que je réfléchissais aux questions qui ont été posées, je pense que la question à laquelle nous devons répondre, si vous me le permettez, est de savoir comment faire en sorte que le travail soit fait si ce qui nous préoccupe, c'est l'élargissement des groupes de travail et qui implique davantage de difficultés de gestion de ces groupes. Nous pourrions essayer, bien entendu, de réfléchir à vos suggestions. J'ai l'impression que nous ne savons pas dans quelle mesure c'est un problème pour tout le système du Codex. Donc, personnellement, je pense qu'il serait souhaitable que certaines des questions soient examinées plus avant et que l'on définisse plus clairement le problème à régler. À mon sens, c'est une question qui a déjà été posée par le passé, au comité sur l'hygiène. L'idée est de développer les concepts pour faire avancer les travaux. Et il n'est peut-être pas nécessaire d'examiner ces questions au sein d'un groupe de travail physique. Je pense que l'évaluation avait également fait des suggestions pour faire avancer les choses. Peut-être que si l'on pouvait conjuguer tout cela, cela permettrait d'examiner toutes ces questions avant le CCGP. Je pense donc qu'il serait souhaitable de préparer un document, que ce soit le bureau ou d'autres groupes qui le préparent, peu importe. Mais je pense qu'il serait important de préparer un document plus détaillé qui permettrait de faire la lumière sur ces questions. Merci.
Thank you, advisor, for...
Merci au conseiller Pacifique Sud-Ouest. J'ai l'impression que vous êtes presque candidat volontaire pour cette tâche, n'est-ce pas? Cela permettrait de faire avancer les choses si l'on pouvait se mettre d'accord, soit de se tourner vers le CCGP s'il devait se rencontrer en 2011, soit d'opter pour un autre mécanisme si le CCGP devait ne se réunir qu'en 2012 pour donc étudier plus avant ces idées. Alors, comme vous l'avez dit, un document pourrait être préparé par le bureau ou par le bureau plus quelques membres de notre comité. Pourquoi pas? Vous venez de nous montrer qu'il est possible de réfléchir de manière critique et novatrice à ce type de questions. J'espère que vous souhaiterez vous associer à cette réflexion et aux travaux. Mais nous devrons rapidement prendre une décision sur ce point de l'ordre du jour. Je vais donc prendre une dernière intervention du membre pour l'Europe. Alors, je n'ai pas de solution créative à proposer, loin de là. Contrairement à mon collègue, je me disais simplement que si les choses devaient prendre autant de temps, j'ai bien entendu la suggestion tendant à faire en sorte que le bureau prépare un document, mais après avoir entendu les différents points de vue des membres du comité ce matin, je pense que cela risquerait de représenter une tâche titanesque. Au regard de ce qui a été dit aussi par les coordonnateurs Proche-Orient, Amérique latine et Caraïbes, ce pourrait être difficile que de demander au bureau de préparer un document de ce type. Alors, comme je l'ai dit, ma suggestion n'a rien de créatif, mais si le comité exécutif en est d'accord, on pourrait transmettre cette proposition à la commission et dans l'intervalle, lorsque se réunira le CCGP, nous pourrions demander à la commission de demander au comité, lorsqu'ils ont des groupes de travail physiques, de leur demander de recueillir des bases factuelles sur le fonctionnement de ces groupes, sur les difficultés rencontrées, sur les bonnes pratiques, le niveau de participation, pour que tout éventuel groupe de travail CCGP dispose de données de base pour poursuivre la réflexion plutôt que d'essayer de recueillir ces bases factuelles de lui-même. Ainsi, nous aurions en quelque sorte préparé le terrain. Et même si le CCGP se réunit en 2012 et décide de constituer un groupe de travail, au moins, l'on aura déjà des données de base à examiner. Merci. La présidente, merci aux membres pour l'Europe. Je pense qu'en effet, cela pourrait nous aider à répondre à certaines des questions qui ont déjà été soulevées par les membres du comité exécutif. Il me semble que nous sommes d'accord pour dire que le CCGP devra se pencher sur ces questions, pas d'autre solution de toute façon. Les membres pour l'Europe suggérait que la tâche pourrait être trop complexes à assumer pour le bureau. Tel que je l'ai suggéré, je souhaiterais que l'on puisse conclure la discussion sur ce point, que l'on prépare une recommandation et que l'on passe au point suivant. Je vais donc demander aux membres ce qu'ils souhaiteraient recommander à la Commission. Premièrement, le comité exécutif pourrait-il recommander d'étudier plus avant ces différentes idées et ces concepts? Deuxièmement, dans l'affirmative, comment proposeriez-vous de procéder? Le membre pour l'Europe a proposé de demander au secrétariat, de demander au comité de nous faire part de leur expérience positive ou moins positive, des groupes de travail physiques. Autre suggestion, demander au bureau d'étudier plus avant ces questions. Ce qui, en effet, représenterait une tâche colossale, dirais-je. Le membre Pacifique Sud-Ouest a la parole et je vous demanderai de vous efforcer de vous concentrer sur les recommandations que l'on pourrait souhaiter faire à la Commission. Madame. Merci, Madame le Président. Alors, j'ai une question que j'aimerais poser au secrétariat. Si nous sommes d'accord pour recommander à la Commission d'étudier plus avant cette question, si le CCGP ne se réunit pas en 2011, la Commission pourra-t-elle suggérer de renvoyer la question au comité exécutif pour discussion? Parce que nous aurons deux réunions du comité exécutif d'ici à la réunion du CCGP de 2012. En ce qui concerne la possibilité d'étudier ces questions plus avant, je pense que le bureau aura le bénéfice de la discussion ici, ainsi que celui de la discussion à la retraite des présidents. Il ne s'agit pas de demander au bureau d'élaborer des procédures. Cette question, et ceux d'entre nous qui avons travaillé sur les groupes de travail physique et électronique savent que c'est un processus très long. Mais il est vrai que ces questions doivent être étudiées plus avant et le bureau, peut-être avec le concours des présidents, par le biais du groupe informel des présidents, pourrait se pencher sur certaines de ces questions et nous pourrions en discuter, nous aussi, à nouveau en juin de l'année prochaine. Voilà ma suggestion. Merci. La présidente, je vous remercie, madame, le membre du Pacifique Sud-Ouest. Il me semble que cette suggestion est assez concrète, pratique et réalisable. Comme vous l'avez dit à juste titre, elle n'exigerait pas du bureau qu'il se charge des travaux qui reviendraient au CCGP. Il recueillerait des informations et décrirait les problèmes. Si la Commission devait décider que le CCGP ne se réunit pas avant 2012, alors la Commission pourrait demander au comité exécutif de se pencher à nouveau sur cette question à sa prochaine réunion et dans l'intervalle, le bureau travaillerait, étudierait de plus près ces questions, nous décrirait les problèmes posés, les avantages et les inconvénients des procédures actuelles. Je viens résumer. Parfait. Le membre pour l'Asie. Merci, madame. Je voulais simplement appuyer la représentante du Pacifique Sud-Ouest. Par ailleurs, En ce qui concerne le consensus, nous en avons déjà discuté et je pense que l'on pourrait suivre les mêmes procédures. Je crois que c'était Tom qui s'était chargé de recueillir l'avis des uns et des autres et nous les avait présentés de manière assez remarquable. Je pense que ce type d'activité serait extrêmement utile. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup aux membres pour l'Asie pour cette excellente suggestion. Nous pourrons l'ajouter au menu qui sera soumis à la commission. Coordonnateur pour l'Afrique. Puis nous mettrons un terme à la discussion. Merci. Merci, madame. Pardonnez ma voix. Quelque peu éraillée, je suis refroidie. Outre les suggestions que j'ai déjà faites, étant donné les futures réunions des comités de coordination, je pense qu'il serait peut-être bon de soulever cette question et de la soumettre au comité de coordination pour voir ce qu'ils en pensent. Merci. Merci au coordonnateur pour l'Afrique pour cette excellente suggestion. Il serait dommage, en effet, de laisser passer cette occasion. Bien. Nous allons donc proposer, il me semble, que tout le monde est d'accord pour que l'on poursuive l'examen de ces idées. Nous proposerons à la commission que le comité exécutif demande à la commission de demander au CCGP d'examiner cette question en 2011, pour autant qu'ils se réunissent en 2011. Alors j'aurais dû peut-être commencer par dire que nous demanderons à la commission de renvoyer la question au comité de coordination régionaux pour examen. Ce serait la première chose à faire. À partir de là, il a été suggéré qu'une étude soit menée demandant aux présidents de nous faire part de leur expérience, des groupes de travail physique, difficultés rencontrées et avantages de ces groupes, tels que suggérés par le membre pour l'Asie. Par ailleurs, si le CCGP devait ne pas se réunir avant 2012, la commission demanderait au comité exécutif de se pencher à nouveau sur cette question à sa prochaine réunion en juin 2011, dans un an donc, et que dans l'intervalle, le bureau, avec éventuellement l'aide des présidents des comités et de tout bénévole et volontaire du comité exécutif, tenant compte des contributions des comités de coordination et des résultats de l'étude, étudie plus avant encore ses idées, avantages, inconvénients de telle et telle approche et prépare un document plus étoffé qui sera soumis à l'examen du comité exécutif et ensuite sera soumis au CCGP en 2012. Le comité exécutif est-il d'accord avec ce résumé que je viens de soumettre, ce qui concerne notre proposition à la commission? Oui, il me semble que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. J'espère que la commission sera aussi enthousiaste que vous l'êtes en ce qui concerne ses possibilités d'améliorer les travaux de la commission. Je vous remercie. N'hésitez pas à exercer des pressions. Merci beaucoup.
clear conclusion on this matter.
Maintenant que nous avons une conclusion très claire sur la question, nous allons passer au document CRD4.
Okay. Thank you.
On vient de m'informer que nous devons marquer une pause café pour nous-mêmes et pour nos interprètes. Nous allons donc nous retrouver à 11h16, très exactement. Merci.